Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast sur la littérature québécoise. Je m'appelle Caroline Fortin et je suis coordonnatrice à la culture et à la bibliothèque pour la municipalité de Saint-Alphonse-Rodrigues. Et ce sera un plaisir pour moi de vous faire découvrir votre héritage, votre identité et votre culture littéraire. Sans plus tarder, remontons au 19e siècle, où les publications sur la Nouvelle-France sont le plus souvent écrites par des auteurs venus de France, dont la plupart ne vivront que quelques années au Canada. On peut penser à Samuel de Champlain, Jacques Cartier ou encore Marie de l'Incarnation. En 1839, le rapport Durham est publié et il exprime que le peuple canadien-français est sans histoire et sans littérature. Ainsi, le gouverneur Durham suppose que les francophones doivent être assimilés. La littérature du terroir fait son apparition au Canada et tente d'offrir une réponse à la tentative d'assimilation du gouvernement britannique. L'idéologie de conservation prend forme. Les axes principaux de cette idéologie du terroir reposent sur trois éléments. La terre, comme l'agriculture et l'héritage, la famille, comme la communauté et les traditions, et la religion, comme le calendrier folkloro-liturgique et les messes. Les écrits du terroir constituent une littérature à thèse, c'est-à-dire qu'elle défend certains aspects, en l'occurrence la culture canadienne-française et son mode de vie traditionnel. Les personnages les plus communs de cette littérature sont les agriculteurs, les familles ainsi que les prêtres. Parmi les auteurs clés de cette période, on peut penser à Lionel Groulx, Néré Beauchemin, aux frères Marie-Victorin ou encore à Blanche Lamontagne. Notons que Blanche Lamontagne est reconnue comme la première poète du Québec ainsi que comme la première femme de la province à avoir affronté la critique sans pseudonyme. Les premiers romans canadiens-français apparaissent entre 1860 et 1900 et relatent des événements locaux ou des anecdotes de tous les jours. L'écrivain français Charles Nodier les qualifie de « délicieuses histoires du peuple ». Ainsi, l'intrigue occupe une place minime dans les œuvres. Les romanciers de cette époque se soucient peu des complications sentimentales et des analyses psychologiques. Le style, en général, est simple et naturel. Le roman de 1900 à 1950 présente la plupart du temps nos ancêtres, des coureurs des bois, des défricheurs, des patriotes, des défenseurs de nos droits, la vie des immigrants de l'Ouest ou des États-Unis, des habitants des vieilles terres, la société bourgeoise, le monde ouvrier, la montée des industries ou encore les intellectuels. Les années de la crise économique de 1930, qui provoqua aussi celle de la pensée traditionnelle, constituent le moment d'une renaissance intellectuelle. Revues et journaux surgissent et disparaissent à un rythme accéléré. Rédigés souvent par des jeunes que la crise exaspère, chacune de ces publications lance des anathèmes et cherche des solutions. On ne veut plus seulement survivre, mais vivre. D'extérieur, l'identité devient une réalité intérieure à conquérir. Certaines voix isolées commencent même, dès le début des années 1940, à revendiquer plus de liberté individuelle en présentant le nationalisme et le cléricalisme comme étant les principaux obstacles à ce désir d'épanouissement. Bientôt, le mot « épanouissement », comme le rapporte Gabriel Roy dans son autobiographie, sera sur toutes les bouches. À partir de la fin des années 1940 et surtout au cours des années 1950, cette recherche va prendre des contours plus explicites et devenir une constante qui va ressurgir dans certains romans ou articles contestataires à travers le constat que l'idéologie de la survivance ne nous permet pas de vivre vraiment. La réflexion canadienne-française était auparavant centrée sur le repli de soi avec l'idéologie de conservation. Avec l'arrivée de la Révolution tranquille, l'affirmation de la culture québécoise se traduit par la révolte et par la contestation. Un véritable esprit contestataire se manifeste, entre autres, dans les écrits de l'époque, notamment avec le manifeste du refus global. La prise de conscience générale dans les années 1960 est à caractère politique, culturel, langagier, religieux et identitaire. Les auteurs phares sont Gaston Miron, Régent du Charme, Françoise Loranger et j'en passe. Le joual fait son entrée et permet, entre autres, d'effectuer une prise de conscience linguistique. Il participe à l'identité québécoise, comme utilisée par le célèbre Michel Tremblay. Audacieuse, intime, sans frontières ou engagée, la littérature québécoise retient maintenant l'attention de bien des lecteurs. La revue Les Libraires s'est donnée comme un défi de lui trouver 10 caractéristiques pour définir les principaux contours de la littérature contemporaine québécoise, même si, ici et là, il y a toujours des exemples qui feront exception à la règle. Et c'est tant mieux. Les libraires notent d'abord un retour au thème de la région. Si nous ne sommes plus dans les romans du terroir où les personnages défrichent des terres et courent sur des rondins de bois, nous sommes tout de même entraînés dans des aventures romanesques où les chalets ne sont jamais bien loin et où la vie rurale, celle des rangs et des forêts, se fait fort présente. Ensuite, les libraires constatent une ouverture sur le monde. Ces voix venues d'ailleurs nous parlent davantage de nous grâce au miroir qu'elles nous proposent et dans lequel on aperçoit nos différences. Aujourd'hui, la littérature migrante est très importante au Québec. Elle raconte notamment l'adaptation, le déracinement et la confrontation entre les cultures. Les auteurs les plus connus faisant partie de cette littérature migrante sont Dany Lafrenière, Kim Thuy ou encore Wajdi Mouawad. Selon le poète Robert Berouet-Auriol, la littérature québécoise est d'ores et déjà en train d'interpeller un discours équivoque dont l'enjeu est sa capacité d'accueillir l'autre sans pour autant lui demander de se dissoudre. De plus, les libraires dénotent un culte de la vedette. Pour ces auteurs vedettes, c'est une façon d'établir un dialogue avec leur public, de se montrer authentique grâce à cette proximité créée, à ce partage de faits vécus, de détails croustillants. Ça rejoint sans doute également l'ère du temps, celui des réseaux sociaux où l'on est avide de tout révéler et de tout savoir sur les autres. Pour en savoir plus sur les caractéristiques du roman québécois contemporain, je vous invite à lire l'article de Les Libraires, où le lien est disponible sur le blog de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. Notons aussi que notre culture est liée à celle des Premières Nations. C'est pourquoi nous allons jeter un coup d'œil à cette histoire riche et fascinante qu'est l'histoire de la littérature autochtone. Pendant plus de 400 ans, la littérature autochtone fut l'affaire des conteurs, détenteurs de la tradition orale des Premières Nations de notre pays. La littérature orale était la plus importante de toutes puisqu'elle se transmettait au sein même de la famille élargie. Un homme ou une femme devenait une sorte de livre vivant, ouvert aux événements passés et aux diverses parties importantes de sa propre vie. Ses connaissances étaient souvent transmises à plusieurs de ses descendants qui faisaient de même avec les leurs. Les traditions, coutumes et les histoires étaient maintenues par le fil de la mémoire des humains. Près du feu, les nuits d'hiver, on se transmettait la connaissance. Parmi les auteurs autochtones contemporains, nous pouvons penser à Joséphine Bacon, Naomi Fontaine et Michel Jean. Avant de terminer, je souhaite vous rappeler que nous avons de beaux talents littéraires ici même à Saint-Alphonse-Rodriguez. On peut penser à Louise Warren, qui écrit depuis plus de 35 ans et qui a publié de nombreux livres de poésie. Elle a d'ailleurs été invitée d'honneur du marché de la poésie de Montréal en 2010. De plus, elle est commissaire invitée pour une exposition au Musée d'art de Joliette qui se tiendra du 15 août 2020 au 10 janvier 2021. Restez à l'affût. Saint-Alphonse-Rodriguez a aussi la chance de compter sur Marie Montpetit, intervenante psychosociale, zoothérapeute, conférencière et auteure. Elle a une façon bien à elle de vulgariser l'information et la rendre à la fois intéressante, ludique, pratique et teintée d'un brin d'humour. Nous pouvons aussi compter sur André Lamar, professeur de langue et de littérature française au Collège Maisonneuve à Montréal. Il a contribué à la production de nombreux documents didactiques. Finalement, Gilles Marcotte a aussi participé à l'épanouissement de la littérature locale en s'impliquant comme écrivain public pour les citoyens rodriguais. Vous êtes un auteur rodriguais, vous n'avez pas été nommé? Contactez-moi à biblio@commercialmunsard.ca. Voilà, c'est ce qui conclut ce podcast sur la littérature québécoise. J'espère que vous y avez fait de belles découvertes. Je vous invite à vous rendre sur le site web de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez pour des suggestions lecture sur le roman québécois. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour un prochain podcast, vous pouvez m'écrire un courriel à biblio@commercialmunsard.ca. Je vous invite à partager le podcast avec vos amis lecteurs. Avant de quitter, je souhaite remercier mes sources où j'ai puisé toute l'information pour ce podcast. Merci au Collège Marianopolis, à Radio-Canada et à la revue Les Libraires. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne lecture.